Je m'écarterai un peu dans ma communication de ce que j'ai écrit dans le résumé, parce que, bien sûr, j'avais envoyé mon résumé avant d'écrire l'article, donc je ne suis pas arrivé exactement aux conclusions que j'avais écrites, mais ce sont sur des points de détail. On trouve deux éditions italiennes de Natale Conti antérieures à 1600 dans les bibliothèques de Basse-Normandie, et le fait est déjà remarquable. La première sont les Commentarii de Turcarum Bello in Insulam Meliti, donc la guerre contre les Turcs à Malte, édition de Venise, Giordani Ziletti de 1566, une édition Princeps, qui est à Caen, à la bibliothèque municipale. Et l'autre, c'est les Mythologiae Libri d'Ecem, donc l'édition de Venise de 1581, qui est à la bibliothèque municipale d'Avranches. Malgré l'énorme influence qu'a eue son œuvre mythographique, Natale Conti, donc connue dans les traductions françaises anciennes sous le nom de Noël le Comte, est un personnage assez mal connu. Ce sont essentiellement ses écrits qui nous fournissent quelques renseignements sur son existence, et notamment les chapitres 3-17 de sa Mythologia et le chapitre 189 du livre 9 de son Historia Universa Sui Temporis. Malheureusement, les mentions sont peu claires et apparemment contradictoires. Il est probablement issu d'une famille romaine qui émigra à Milan. Mais dès son enfance, ses parents se transportèrent à Venise à cause de la sixième guerre d'Italie entre François Ier et Charles Quint, donc entre 1521 et 1525. À Venise, il réussit à gagner les bonnes grâces de protecteur puissant et s'adapta suffisamment pour se déclarer Venetus dans plusieurs de ses ouvrages. Il publia en 1547 à Milan et en 1550 à Venise deux ensembles poétiques, dont le deuxième était dédié à Côme Ier de Médicis, le maître de Florence, depuis 1537. En 1551, sorti à Venise son De Venatione, donc un poème didactique sur la chasse, qui est dédié au cardinal Giulio della Rovere. Dans les années suivantes, se livra un important travail de traduction à latin d'œuvres grecques, donnant notamment la première traduction des Deipnosophistes d'Athénée, une traduction qui a été abondamment critiquée, mais qui a pourtant été utilisée, par exemple, par Michel de Marolles pour sa propre traduction d'Athénée en français. Il traduit aussi des traités de rhétorique. Il traduit aussi en latin un livre italien du graveur Inea Vico, Les Imagini delle Donne Auguste, de 1557. Ensuite, il s'occupe de réunir l'ample matériau qui devait servir aux Mythologiae Sive Explicationum Fabularum Libri d'Ecem, qui parurent à Venise en 1567-1568. Le livre est dédié au roi de France Charles IX. Je reviendrai sur ce point. Dans la dernière partie de sa vie, Conti se consacra surtout à une œuvre de caractère historique, les Universae Historiae Sui Temporis Libri d'Ecem, publié à Venise en 1572, avec une dédicace à Don Juan d'Autriche. L'ouvrage traite de la période allant de 1545 à 1556 et se concentre sur l'Italie. Conti le continua jusqu'en 1581 en le faisant passer de 10 à 30 livres. La date de sa mort est inconnue, peut-être 1582. La dédicace à Charles IX de la Mythologia a fait supposer parfois un séjour de Conti en France, qui, quoique les Italiens fussent alors nombreux à y venir, n'a apparemment jamais eu lieu. La Mythologia est son œuvre majeure. Elle s'inscrit dans la tradition des livres sur la mythologie, dont, après les mythographes médiévaux, Boccace donne à la pré-Renaissance le signal avec ses Genealogiae Deorum Gentilium, donc les généalogies des dieux païens, diffusées sous forme manuscrite à partir de 1365. Ce type d'entreprise sera continué ou renouvelé seulement au XVIe siècle, d'abord avec les Theologia Mythologica de l'allemand Georgius Pictor, et surtout avec trois ouvrages 1532, et surtout avec trois ouvrages italiens, le De Deis Gentium Historia de Giraldi, paru à Bâle en 1548, Les Imagini dei Dei degli Antichi de Cartari, Venise 1556, et la Mythologia de Conti. Conti est donc assez mal fondé à se présenter comme un innovateur et à s'étonner, je cite en français, que personne des auteurs anciens jusqu'à ce jour n'ait entrepris une explication d'ensemble des fables. Et s'il ne cite ni Boccace ni Giraldi dans le catalogue des écrivains utilisés qu'il a mis en tête du livre, il leur fait pourtant des emprunts. Mais il veut sans doute dire par là que ses prédécesseurs n'ont pas su pénétrer le sens profond des mythes. La première édition de la Mythologia, dont j'ai parlé, de 1567-1568, porte une dédicace au roi de France Charles IX, qui est datée de 1567. Conti souligne la glorieuse ascendance du souverain. Il est le petit-fils de François Ier, grand protecteur des lettres et des arts, et le fils d'Henri II, qui poursuivit l'œuvre de son père. À l'extrême fin du livre, Conti exprime sa reconnaissance envers deux personnages, sans l'aide desquels, nous dit-il, il n'aurait pu publier son ouvrage. Le premier est Arnaud du Ferrier et le deuxième Valerio Faenzi. C'est le premier qui nous importe ici. Donc Arnaud du Ferrier, élevé en France et en Italie, il devint président aux enquêtes du Parlement de Paris en 1555. En 1562, il fut envoyé au Concile de Trente, puis en 1563, nommé ambassadeur à Venise, où il resta jusqu'en juin 1567. C'est évidemment pendant cette période qu'il fit la connaissance de Conti, et c'est lui, vraisemblablement, qui le poussa à dédier son œuvre à Charles IX. D'autres savants de l'époque ont dédié des livres à Charles IX, par exemple l'humaniste Denis Lambin. Mais dès la deuxième édition, celle de Venise de 1581, le dédicataire devient Giovanni Battista Campeggi, et c'est cette dédicace, datée du 1er septembre 1580, qu'on trouvera reproduite dans toutes les éditions ultérieures, sauf deux éditions de Padoue. Campeggi, nommé évêque de Majorque en 1532, ne se rendit jamais dans son évêché et dut renoncer à cette charge en 1558. Il vivait principalement à Bologne et protégeait les lettrés. Conti explique dans cette nouvelle dédicace que le livre n'ayant pu être envoyé à Charles IX en raison des troubles religieux en France, et celui-ci au reste étant mort en 1574, il était fondé à choisir un autre dédicataire. La Mythologia comprend 10 livres, tous pourvus d'un titre, sauf le premier. En réalité, le contenu des livres ne correspond pas toujours au titre, ou du moins, le titre ne s'applique-t-il parfois qu'au premier chapitre. À l'intérieur de chaque livre, les chapitres, sauf au livre 10, sont généralement regroupés selon des liens thématiques. L'index final pallie les inconvénients de la relative désorganisation de la matière à laquelle Boccace remédiait dans sa généalogie des dieux païens, précisément par la structure en généalogie. Le livre 1 est programmatique, le livre 10 récapitule l'acquis des 9 livres précédents en une sorte de sommaire. Le premier livre justifie l'étude de la mythologie non seulement comme objet de savoir, mais comme objet philosophique. L'ouvrage, de fait, est moins une compilation qu'une interprétation des mythes. Les anciens, en effet, selon Conti, employaient le mythe comme moyen d'exprimer, de manière dissimulée, des vérités essentielles sur la vie humaine, que les gens ordinaires ne peuvent comprendre directement. Il s'agit donc de dépasser l'écorce des fables et d'en trouver le sens caché originel. Cette idée qui sous-tend toute l'œuvre, exprimée au début du livre 1, est reprise dans plusieurs préfaces, celle du livre 6 et du livre 9 en particulier, et au livre 10. Conti, nous dit-il, choisit de se limiter aux mythes porteurs de sagesse, laissant de côté ceux qui sont, selon lui, privés de sens, comme certaines métamorphoses. Dans l'interprétation, sa méthode est rationaliste et allégorique. Les fables admettent une explication historique, une explication naturelle ou morale, plusieurs interprétations pouvant se surajouter. L'explication historique, c'est-à-dire éphémériste, est citée la première rapidement. Conti s'attache davantage à l'explication naturelle, les fables contiennent les secrets de la nature, et surtout à l'interprétation morale. On sait l'importance du christianisme chez les mythographes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Conti, de même, qui ne sépare pas nettement philosophie et théologie, découvre des éléments pré-chrétiens cachés derrière le vernis païen. Il tente de montrer que les dieux de la mythologie anticipent le dieu chrétien et que la religion gréco-romaine préfigure le christianisme. Ainsi, dans la préface du livre 3, il établit un parallélisme entre le système de rétribution après la mort chez les païens et chez les chrétiens. Plus hardiment, il explique dans la préface du livre 8 que les anciens, en apparentant presque tous les dieux à Jupiter, ont voulu montrer par là qu'il n'y avait en réalité qu'un dieu souverain de l'univers. Cette christianisation permet de tirer de la mythologie un code de conduite applicable au présent et, plus largement, de rendre l'étude de la fable acceptable pour des chrétiens. Les trois grands traités mythographiques italiens du XVIe présentent à peu près le même matériau, donc Giraldi, Conti, Cartari, mais leurs auteurs ont des ambitions et des aptitudes différentes. Giraldi est plutôt philologue, Cartari plutôt iconographe, Conti plutôt philosophe. Conti est très attentif à la diversité des sources classiques et utilise plus la littérature grecque que Giraldi et Cartari. Il nous a d'ailleurs conservé des fragments d'œuvres grecques, autrement inconnues. On lui reprochait parfois des citations inexactes ou de seconde main, mais il est tout à fait absurde d'exiger d'un auteur du XVIe siècle de se conformer à des règles de précision valables pour un universitaire du XXIe. Quand il aborde un mythe, Conti ne se contente pas d'en donner un simple résumé, il examine avec soin les variantes antiques. Dans l'interprétation, qui prend chez lui une place particulièrement importante, il ne tente pas de concilier l'explication historique, naturelle et morale, mais les juxtapose si les trois lui paraissent pertinentes. Cependant, sa préférence, je l'ai dit, va à l'explication morale. Le succès de la mythologie est attesté à la fois par le nombre des éditions et par l'influence de l'ouvrage. La Mythologia, je l'ai dit, parut à Venise en 1567-1568. On a souvent invoqué une édition antérieure qui serait de 1551, mais celle-ci n'a jamais existé. L'origine de l'erreur est une confusion. Comme le De Venatione de 1551 a été publié en 1581 à Venise en même temps que la Mythologia, et qu'il le sera de même, donc publié avec elle, dans la majorité des éditions ultérieures, on a cru que les deux œuvres avaient déjà été publiées conjointement en 1551. Or, il n'en est rien, mais on trouve de très nombreux ouvrages où des gens vous affirment que cette édition a existé, mais qu'ils ne l'ont pas vue. L'édition Princeps, une édition qui est assez rare hors d'Italie, qui, selon les exemplaires, porte à date de 1567 ou de 1568, phénomène fréquent à cette époque, en fait, il s'agit de deux impressions d'une même édition, a été publiée par le libraire-éditeur Alsenio della Fontana. L'emblème de l'éditeur est une fontaine jaillissante en forme d'amphore qui est soutenue par des putti. Donc, le libraire-éditeur Alsenio della Fontana, qui se trouve être Zaccaria Zenaro, par les soins du typographe-imprimeur Comine da Trino. Zaccaria Zenaro est un éditeur plutôt spécialisé dans le droit, actif de 1542 à 1572. Comine da Trino a été pendant de nombreuses années son typographe préféré. Très discret, ils ne font pas figurer leur nom sur les livres qu'ils publient. La Mythologia fut rééditée en 1581 à Venise, avec le De Venatione, par les héritiers de Zaccaria Zenaro, Giovanni et Andrea Zenaro, qui n'indiquent pas non plus leur nom. L'ouvrage contient la nouvelle dédicace dont j'ai parlé. Le sous-titre indique clairement qu'il s'agit d'une édition augmentée. La même année 1581, le libraire parisien André Wechel, qui avait fui Paris en 1572 en raison de son appartenance à la Réforme et s'était installé à Francfort, publia jusqu'avant sa mort une autre édition. Elle était revue, comme l'indique l'avertissement Candido Lectori, donc au lecteur bienveillant, par les deux savants allemands qui lui servaient de correcteur, l'helléniste Friedrich Silburg et le médecin Johannes Hopsopoeus. Une lettre de Conti à Wechel de décembre 1581 suggère que cette édition francfortoise de 1500, 81 reflète le mieux les intentions de l'auteur. Il reste que la relation entre les deux éditions de 1581, celle de Venise et celle de Francfort, est peu claire. Alléché par le succès de cette édition, l'éditeur parisien Arnold Sittard obtient un privilège de 10 ans pour le livre le 17 octobre 1582. Il chargea de la réédition le naturaliste et humaniste Geoffroy Linossier, un parent de l'éditeur Guillaume Linossier, qui dédia l'ouvrage à Guillaume de Gadagne, sénéchal de Lyon. Geoffroy Linossier se vante d'avoir amélioré le texte, mais il a surtout piraté l'édition de Wechsel, sans mentionner du reste aucune des éditions antérieures. Pour ajouter au livre quelques nouveautés, il adjoignit à la fin du volume son propre Mythologiae Musarum Liber, d'une quarantaine de pages, qui, dorénavant, a toujours été réimprimé à la suite de la Mythologia de Conti. L'année d'après, en 1584, les héritiers d'André Wechsel, Claude Marny et Jean Aubry, firent paraître à Francfort une nouvelle édition où ils protestaient dans une épître au lecteur contre les procédés de Sittard et incluaient la lettre de Conti évoquée plus haut pour établir leur légitimité. Cette édition sera réimprimée plusieurs fois et c'est elle qui a lancé le livre. Avant 1600, je citerai encore l'édition de Genève de 1596 et la même année, une édition à Tournon, dans l'Ardèche, chez Guillaume Linossier, apparemment un parent de Geoffroy Linossier. Une traduction française est publiée dès 1600 à Lyon chez l'éditeur Paul Frelon, avec une dédicace à Henri de Bourbon, prince de Condé. Elle est due à Jean de Montliard, qui est aussi traducteur d'Apulée de Piero Valeriano, donc les hiéroglyphes, et d'Héliodore. L'identité du personnage est un peu problématique et on ne sait s'il doit être identifié à un ministre protestant homonyme. Elle a été révisée par Jean Baudouin en 1627 et en France, c'est surtout cette traduction qui a favorisé la diffusion du livre. Il n'y a pas eu d'autres traductions avant la fin du XXe et le début du XXIe siècle où ont été publiées coup sur coup une version espagnole et une version anglaise. La traduction espagnole est due à deux savants de l'université de Murcie et elle est consultable en ligne, mais n'est pas exempte d'approximation. La traduction anglaise est plutôt meilleure, elle a été publiée tout récemment. L'influence de la mythologie est plus difficile à évaluer. En effet, les manuels de ce genre sont abondamment consultés, mais rarement cités. Il faut donc trouver des traces précises de leur utilisation, ou du moins des faisceaux d'indices. On pense que Ronsard a probablement connu la Mythologia, mais ce n'est pas absolument sûr. L'œuvre est citée dans les Commentaires des Amours de Muret, mais on a remarqué que c'était non pas dans la première édition des Commentaires des Amours, mais dans des éditions ultérieures. Donc ça ne prouve rien sur une éventuelle connaissance de la part de Ronsard. À la même époque, on trouve le nom de Conti dans la relation d'un ballet comique de la Reine de 1582, donné et imprimé à Paris. Dans de nombreux dictionnaires de l'époque, celui de Furtière, celui de Moreri, Conti apparaît. Il disparaît de ce type de dictionnaire à la fin du XVIIe. Par exemple, il n'est plus dans le dictionnaire de Bell. Et il faut attendre le 19e pour voir réapparaître son nom dans les grandes biographies. Il faut essayer d'expliquer les raisons de ce succès qui a été plus grand que celui de Giraldi et de Cartari. D'abord, la Mythologia a un double caractère, étant à la fois un manuel mythologique et une mythologie moralisée. Ensuite, c'est un livre écrit dans une langue facile. Il se lit agréablement, les citations y abondent, et les passages en grec sont toujours traduits en latin. Sa structure est solide, sinon organisée. Il est subdivisé en chapitres, dont chacun est consacré à une seule divinité. Et les transitions sont soulignées par des formules claires du type « Atque de palade satis, nunc de prometeo dicamus ». Chaque chapitre est lui-même composé de deux parties, séparées par un signe typographique, la première narrative, la seconde en donne l'interprétation et elle est introduite par une formule claire du type « nunc, quid, haec, significans, expliquemus ». Enfin, l'ouvrage est un maniement aisé grâce à la présence, dès la première édition, d'une table très claire des noms propres. Et la traduction française, elle aussi, dispose d'un index. J'en viens maintenant à l'exemplaire d'Avranches. Si j'examine les éditions de la Mythologia antérieures à 1600 dans les bibliothèques de France, en me fondant sur les divers catalogues informatisés qui existent, donc le Sudoc, le CCFR, etc., qui certes ne sont pas exhaustifs, mais qui donnent une idée, on constate d'abord une nette prépondérance des diverses éditions de Francfort. En deuxième lieu viennent les éditions de Paris et de Genève. L'édition de Venise de 1581 n'existe qu'à la BNF, elle est consultable sur Gallica, et à Nice, à la bibliothèque municipale Louis Nucera. L'édition de Venise de 1568, très rare en France, je l'ai dit, ne se trouve qu'à la Sorbonne. La présence de l'édition vénitienne de 1581 à Avranches est donc un fait remarquable. Plus généralement, la Mythologia dans ses diverses éditions, pas seulement italiennes, est bien représentée en Basse-Normandie, je me limite toujours aux éditions antérieures à 1600, puisqu'on trouve un exemplaire d'édition de Paris de 1583 à Alençon, un exemplaire de l'édition de Francfort de 1584 à Caen, et un exemplaire de l'édition de Genève de 1596 à Valognes. L'exemplaire d'Avranches de 1581 porte un ex dono donné au père Capucin d'Avranches par feu monsieur Daubroche. La bibliothèque municipale d'Avranches s'est constituée à la Révolution avec les ouvrages et manuscrits mis à disposition de la nation, c'est-à-dire confisqués, à diverses bibliothèques ecclésiastiques du secteur, et notamment, bien sûr, celle du Mont-Saint-Michel. C'est le fait le plus connu. La bibliothèque des Capucins était l'une de ces bibliothèques confisquées. Les Capucins s'étaient installés à Avranches en 1618. Il ne reste rien de leur monastère qui a été détruit par les bombardements de l'été 1944. À peu près 600 livres sont ainsi passés des Capucins à la bibliothèque municipale. Il en reste à peu près 80. Sur ces 80, 14 résultent d'un don, peut-être testamentaire, fait par Martin de Campron, sieur d'Aubroche, entre 1627, date d'édition d'un des livres légués, et 1628, date de sa mort, puisque j'ai retrouvé, avec l'aide de M. Jean-Luc Le Servoisier, conservateur de la bibliothèque d'Avranches, qui m'a beaucoup aidé, son acte de décès sur les registres de la paroisse Notre-Dame-des-Champs d'Avranches, ce 15e jour de janvier 1628, avant midi, décéda Martin de Campron, escuyer, sieur d'Aubroche, ci-devant vicomte de Mortain, etc. C'est 14 livres sont assez disparates. Donc, il y a la Mythologia de Conti, donc bien sûr. On trouve un Suétone, un Terence, un Lexicon Greco-Latinum, des Institutiones Linguae Syriacae d'Angelo Canino, un commentaire à certains traités d'Aristote, les Lettres de Dossa, évêque de Bayeux, la République de Jean Bodin, des volumes de droit sur le Code Justinien. Plus curieux, le roman italien Guerino detto il Meschino d'Andrea da Barberino, donc, qui a été écrit vers 410 dans l'édition de Venise 1553, dont, et ça c'est intéressant, la reliure est au nom de Raven de Campron. Je reviendrai là-dessus. Enfin, un incunable, donc parmi les 14, Margarita Poetica, de von Ebb, Bâle, 1495. Donc, ensemble assez disparate, avec une bonne représentation du droit. Cependant, on ne peut en conclure grand-chose sur la culture de Martin de Campron, dans la mesure où celui-ci n'a pas seulement donné des livres qu'il avait acquis lui-même, mais aussi d'autres dont il avait hérité, comme le suggère la reliure du Guerino detto il Meschino, reliure qui est au nom de Ravan de Campron. Les de Camperon sont une ancienne famille noble de l'Avranchin, à plusieurs branches. Les sources citent notamment un Pierre de Camperon, sieur de la Traversière, avocat du roi à Avranches à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les haines entre les familles qui avaient embrasé la cause royale et celles qui suivaient le parti de la Ligue se traduisirent souvent par des scènes de la dernière violence. Les Camperon étaient ligueurs. C'est ainsi qu'à Saint-Senier de Beuvron, le manoir des Préaux, qui appartenait à Julien le Rogeron, fut, vers 1595, envahi et mis au pillage par une troupe armée. Julien le Rogeron, qui était depuis longtemps en procès avec la famille de Camperon, accusa le curé de Vergoncet, Jacques de Camperon, d'avoir été, sinon l'auteur, du moins l'instigateur de cet attentat. Il obtint même une prise de corps contre lui. Mais pour mettre ses jours en sûreté, Jacques de Camperon entreprit un voyage en Italie et en Espagne. À son retour, le Parlement l'autorisa à séjourner, à rester dans la ville de Fougères, et ce fut alors qu'il présenta pour sa défense un livre intitulé « Psalterium Iuste Litigantium », dans lequel il reproche à le Rogeron d'avoir poursuivi et dépouillé son père, de l'avoir fait attaquer et assassiner. Et il nomme ce père Raventius Obrocus, c'est-à-dire Ravant d'Obroche, celui-même, qu'on a vu sur la reliure du Guerino d'Eto il Meschino. Le registre paroissial nous a conservé, sous la date du 4 mars 1616, un curieux détail qui se rattache aux longs procès qui divisèrent si profondément les deux familles. Le 4 mars 1616 fut inhumé Martin Gérard, huissier, lequel échappit, sic, des prisons où le curé de Vergoncet et Martin de Camperon, sieur d'Aubroche, son frère, l'avaient fait mettre à 40 ans parce qu'il avait injurié le curé, l'appelant faux monnayeur, fabriqueur de faux témoins et plusieurs autres injures. Jacques de Camperon et Martin de Camperon étaient donc les fils de Ravant de Camperon. Jacques, devenu curé, était sûrement le cadet. C'est peut-être à l'occasion de son voyage en Italie, donc où il avait fui pour se mettre en sûreté, qu'il acquit pour lui-même ou pour son frère la Mythologia de Conti. Mais il existait déjà dans la famille un autre livre édité à Venise, le Guerino d'Eto il Meschino, appartenant à Ravant de Camperon, dont on ne sait comment il était arrivé entre ses mains. Le résultat de mon enquête est sans doute un peu maigre. Je n'arrive à savoir ni quel est le Camperon qui s'est procuré la Mythologia de Conti, ni quand il l'a fait, ni où. Malgré tout, c'était nécessairement un homme érudit qui témoigne à la fois de l'écho qu'a eu l'ouvrage en France et de la vitalité intellectuelle de la basse Normandie d'alors. Je vous remercie.